Bonjour Ophélie Gaillard.
Bonjour.
Nous sommes au cœur de Genève et on va parler d'une manifestation qui sera imminente au mois d'avril et après en deuxième partie d'année, Ponticello. Mais d'abord, on aimerait venir à votre rencontre, savoir comment vous êtes tombée en amour, comme disent les Québécois, du violoncelle.
Alors, c'était un concert. Mes parents ne sont pas musiciens professionnels du tout, ils sont tous les deux enseignants et... mais amoureux de musique, mélomane. Et donc, j'ai traîné mes guêtres à toutes sortes de concerts, classiques, ethno, chansons, enfin plein de choses depuis mon plus jeune âge. Et j'ai eu un crush, comme disent les jeunes maintenant, un flash sur cet instrument, le violoncelle. J'avais moins de 4 ans. Et j'ai voulu commencer tout de suite. Et puis, ça ne se faisait pas trop. En fait, il y a plein d'endroits encore dans le monde où ça se fait peu, de commencer si tôt un instrument. Et donc, j'ai commencé en réalité à l'âge de 7 ans.
Mais sauf en Chine, peut-être.
Oui, alors il y a effectivement certains... Puis maintenant, il y a des nouvelles pédagogies qui permettent aussi de commencer très tôt. Et parfois, ça fonctionne, parfois pas du tout. Ça dépend des enfants. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment été têtue et tenue bon. Et finalement, commencé à l'âge de 7 ans. Et ça m'a... C'est tout de suite un instrument qui a pris beaucoup de place dans ma vie. À la fois, j'adore le son, la lutherie, le répertoire. C'était un concert de suite de Bach, quand j'ai eu ce premier émoi avec le violoncelle.
Et c'était une évidence, c'était le violoncelle, pas un autre instrument.
Ah oui, alors j'adore, d'ailleurs je travaille toujours beaucoup avec des chanteurs, j'adore la voix, mais le violoncelle, je me suis tout de suite dit que c'était à travers le violoncelle que j'allais le mieux m'exprimer et exprimer cette musique qui est aussi diverse. Ce qui est génial avec le violoncelle, c'est qu'on peut faire évidemment le grand répertoire classique, depuis le baroque jusqu'à la création. Mais en même temps, on peut aussi faire des incursions dans d'autres répertoires. Il n'y a pas, je pense, un instrument qui soit plus compatible que le violoncelle avec les musiques populaires, les musiques traditionnelles, le jazz, ça marche aussi, la chanson. Toujours une ligne de violoncelle dans une chanson, à part peut-être la guitare, mais le répertoire est moins vaste. Donc j'adore ce côté très éclectique du répertoire du violoncelle, et je pense que d'une certaine façon, ça correspond aussi à ma personnalité.
Apparemment, vous avez mentionné des parents qui étaient mélomanes, mais pas du tout musiciens. Pourtant, votre sœur est également musicienne.
Oui, ma sœur est musicienne professionnelle, et mon frère... mon frère est très bon violoniste, mais amateur. Il sort son deuxième livre chez Grasset aujourd'hui même.
Félicitations.
Et c'est un psychiatre spécialiste du cerveau. Et puis, voilà, il est aussi écrivain par ailleurs. C'est le cerveau de la famille. mais il continue à pratiquer quand même le violon en amateur. C'est vrai que je crois que nos parents nous ont transmis l'amour de la musique comme une façon aussi de vivre ensemble, de faire la musique de chambre à la maison. J'ai fait très souvent de la musique de chambre avec ma sœur pendant... On a même constitué un ensemble... alors c'était Amaryllis à l'époque.
Amaryllis.
Pendant 10 ans, on a passé des concours internationaux quand on sortait du conservatoire ensemble. Et puis après, nos chemins se sont séparés professionnellement, je veux dire. Donc elle a continué avec cet ensemble Amaryllis. Et puis moi, j'ai monté cet orchestre qui s'appelle Pulcinella, qui me permet d'explorer tout le répertoire baroque, classique, jusqu'au romantisme. Et puis maintenant, au sein de cet ensemble... On accueille aussi pas mal de jeunes Suisses, de jeunes talents, de Genève et d'ailleurs, parce que j'aime bien dans ce groupe mixer les générations. On va peut-être en parler pour la programmation que je fais avec Marina Viotti, avec Ponticello. L'idée, c'est vraiment aussi qu'on est meilleurs les uns comme les autres quand on mêle les générations et qu'on transmet ce qu'on sait de façon très souple. Donc voilà, je fais toujours des auditions pour des jeunes et aussi bien chanteurs qu'instrumentistes et ça fait partie de l'ADN de Pulcinella, de mon ensemble.
Ophélie Gaillard, vous avez mentionné que le frère c'est le cerveau de la famille. Pourtant, il faut un cerveau artistique très développé pour pouvoir être musicienne de ce niveau. Et c'est une langue, c'est quasiment apprendre une langue.
Alors, je dirais, oui, non, mais ça, c'est une blague entre nous avec mon frère, parce qu'il a, disons, un métier sérieux, on va dire, entre guillemets. Mais il cultive aussi beaucoup sa fibre artistique, parce que justement, il est aussi les psychiatres, donc il fait avec de l'humain, et il sait à quel point c'est important de cultiver ça. Moi, je dirais plutôt que c'est plus qu'une langue, ce sont des langues. Et que la langue de Bach, ce n'est pas la même que la langue de Bernstein. Britten ou Boulez ou Strauss. Et moi, j'ai l'impression, à chaque fois que j'ai une nouvelle langue maternelle, quand j'aborde un style et que j'approfondis une esthétique, il y a un vocabulaire, une grammaire, une façon même... c'est très concret, par exemple, l'organologie, la façon dont l'instrument est mis en valeur. Je joue un instrument qui est de 1737, un très bel italien. Mais quand il est avec des cordes en boyau et un archet baroque, il ne sonne pas du tout de la même façon. Ce n'est pas la même personnalité que quand je joue avec Toquinho de la bossa nova, par exemple, et un instrument qui devient monté en métal. Donc, même pour l'instrument, il y a plusieurs langues. Et ça, c'est très riche, c'est incroyable.
Alors, je rebondis sur vos propos, Ophélie. Vous mentionnez vos instruments, je voulais y venir après, vous avez brûlé une de mes questions. Mais il y a aussi une façon d'approcher la musique. Vous avez appris en France, et vous êtes aussi très passionnée par Naples ou Venise. Il y a une façon d'aborder différemment en Italie la musique, quand on l'enseigne aussi.
Alors, moi, j'ai eu la chance de voyager un peu partout en Italie depuis jeune, mais aussi beaucoup dans d'autres endroits en Europe. Et je pense que les voyages, alors même si maintenant j'ai des préoccupations qui sont beaucoup plus écologiques quand je voyage avec mes enfants et moi-même et que j'organise ma carrière, au début de ma carrière, je faisais volontiers un aller-retour à Singapour pour un concert et je revenais. Maintenant, j'essaye d'être beaucoup plus attentive à
au bilan carbone.
Cohérence au bilan carbone et à trouver une cohérence de vie. Enfin, on peut pas continuer comme ça indéfiniment. Donc, je fais aussi gaffe quand on voyage avec les enfants à tout ça et dans l'organisation des tournées de l'ensemble, ça implique tout un tas de conséquences. Mais oui, j'ai été formée en France, mais j'ai toujours eu un pied en Suisse, parce que je suis franco-suisse, mon père est valaisan, donc j'ai toujours beaucoup aussi été en Valais. Et c'est un élément, pas forcément dans ma formation professionnelle, mais dans ma vie personnelle et artistique, c'est un élément hyper important. J'ai jamais raté une expo d'Odianada, ça fait partie de
on lui rend hommage.
Malheureusement.
Et ses concerts.
Aussi, ouais. Et puis surtout des formidables
philanthropes.
C'est des figures comme ça artistiques qui sont pas que françaises qui m'ont constituée. Mmh. Et effectivement, j'ai aussi beaucoup été en Angleterre. Et dans mes choix de répertoire, de prédilection, c'est vrai que j'ai des pôles géographiques importants. Là, le dernier, c'est Naples. Pour un double album avec Pulcinella. Avant, c'était Londres. Je me suis beaucoup, évidemment, intéressée à l'Allemagne et à l'Italie en fonction des lieux de prédilection aussi du répertoire de mon instrument. Mais j'adore. Et puis, je trouve que c'est... Bah, par exemple, quand on fait un projet sur Naples, il faut être en immersion. Il faut comprendre comment les Napolitains vivent, comment ils font la cuisine... comment on se parle.
Et l'importance de la musique traditionnelle là-bas.
Et en plus, un vivier extraordinaire de musique traditionnelle. Sur l'album qu'on a enregistré, il y a une tarentelle qu'on joue, mm-hmm. qui est semi-improvisée, mais en fait, dans plein de fêtes maintenant, à l'heure actuelle, c'est encore une musique qui est pratiquée par des gens qui ne savent pas lire une note de musique. Hein. Et qui sont super forts, virtuoses, soit en chant, soit en instrument. J'aime bien aller à ces sources-là aussi. Et le violoncelle, c'est un instrument qui est comme un caméléon, qui peut passer partout. Il me faut juste un tabouret, et encore des fois, je joue debout. Ça, c'est fantastique, parce que c'est un peu lourd à transporter, mais on s'arrange.
Vous avez même un confrère, si je ne m'abuse, qui joue à l'envers, il me semble.
La tête en bas. Alors là, j'ai une étudiante en ce moment qui fait un apprentissage prépare un spectacle avec des circassiens et elle m'a montré hier soir une vidéo où effectivement pendant qu'elle joue ils la mettent à l'envers. Moi, j'ai déjà joué sur l'épaule d'un, sur les épaules et la tête d'un danseur. À l'envers, j'ai pas fait encore, mais apparemment, c'est possible.
Pour revenir à votre parcours, votre instrument est, je pense, existentiel, vital. C'est une discipline. Est-ce qu'il il vous accueille le matin, même avant le premier pas?
Alors souvent, je passe pas une journée, par exemple, sans faire une suite de bac ou jouer des choses comme ça fondamentales de mon répertoire. Alors, je suis plutôt noctambule. C'est-à-dire que dans ma vie, sans entrer dans les détails, le matin, je m'occupe plutôt des enfants. Et puis, les premiers moments de vie, c'est pas avec mon violoncelle. Par contre, dès que j'ai un peu d'intimité, de temps pour moi, parce que j'enseigne aussi, donc je fais mille choses, c'est souvent la nuit. Donc, je travaille beaucoup la nuit. Donc, c'est mon compagnon nocturne, très souvent, mon violoncelle.
Vous avez une chambre insonorisée?
Ah oui, il y a toutes sortes de techniques. Il y a des sourdines américaines. J'ai la chance de vivre pas dans un appartement et dans cette région magnifique autour de Genève. Donc, il y a de l'espace.
Est-ce que quand vous êtes tombé en amour, comme je disais en début d'entretien, avec le violoncelle, il y a tout de suite des compositeurs qui vous ont accaparé, qui ont séduit votre âme, votre ouïe?
Ah bah c'était Bach, hein. Clairement, tout c'était suite. Les suites, tout de suite. J'ai eu aussi un flash parce que par les hasards de la vie, j'ai rencontré beaucoup de musiciens de la première génération des baroqueux, Christophe Coin et avant lui les frères Koeken. En fait, je les ai rencontrés, j'avais 8-9 ans. Mes parents avaient beaucoup d'amis artistes en fait. Et puis ma sœur faisait aussi beaucoup de musique baroque. Elle a 2 ans plus que moi. Donc j'ai été plongée dans la marmite très très jeune. Et aussi beaucoup dans la création contemporaine, la danse. Donc, sans aucune barrière stylistique de quelque ordre que ce soit.
D'expression artistique.
D'expression artistique. Mais bon, j'ai quand même des compositeurs sans lesquels, je pense, j'aurais du mal à vivre. Bon, Bach en est un, mais Schumann, Schubert, même Brahms, Strauss, Mahler. Il y a quand même des Mozart, même s'il y a très peu de choses pour violoncelle, mais comme compositeur... Quand je dirige, il y a des fondamentaux comme ça sans lesquels j'imaginerais difficilement vivre.
Et par rapport aux violoncellistes, on pense bien sûr à Rostropovitch, mais il y en a plein qui ont dû tout de suite vous convaincre de poursuivre, de travailler intensément pour atteindre un niveau supérieur.
Bah, j'ai fait des très belles rencontres, mais pas forcément des violoncellistes, aussi des artistes ou même des fois
des professeurs.
Mais bon, j'ai commencé avec une professeure, comme mes parents ne sont pas musiciens, qui n'était pas forcément... C'était une très vieille école et pas forcément inoubliable. Mais elle ne m'a pas dégoûtée. Et j'ai très vite rencontré Christophe Coin, en fait, qui m'a un peu orientée comme ça dans pour trouver un prof. Donc ça, c'était une belle rencontre. J'ai eu la chance de travailler avec ensuite des profs qui étaient vraiment des passionnés de pédagogie. Philippe Muller, qui a formé un nombre invraisemblable d'élèves. Mais aussi, par exemple, un pianiste que j'ai adoré, c'est Georgi Shabok, qui était le partenaire de Starker. Je l'ai rencontré en même temps qu'Janos Starker. Tous les deux hongrois, tous les deux immigrés au moment de la guerre aux États-Unis. Et c'était un immense musicien, une humilité incroyable, vraiment une très très belle personne. Et donc, il m'a beaucoup influencée, alors que c'était un pianiste. Mais j'ai aussi pris des cours avec Belsma, Starker, plein de figures importantes. Je pense que c'est important d'être confronté à des génies, des artistes de premier plan, jeunes.
Ophélie, vous avez mentionné les cours aussi. Donc, dans les parcours des musiciens, il y a toujours des histoires de rencontres, des rencontres qui sont capitales, qui vont changer ou influencer la voix.
Oui, bah par exemple, le fait que j'enseigne à la Haute École de Musique, je pense que c'est devenu central dans ma vie, puisque c'est devenu vraiment mon port d'attache et de vie. Mais ce n'est pas un hasard non plus. J'ai fait, certes, ma formation en France, mais j'ai toujours adoré et cultivé aussi le fait d'avoir des liens un peu viscéraux avec la Suisse. Parce que c'est un tout petit pays très ouvert sur le monde. En fait, on est trop petit pour se prendre au sérieux trop. C'est la Suisse que j'aime. Et je pense que c'est un pays qui est très intéressant, qui a toujours su, particulièrement Genève, accueillir des artistes venant de partout au moment de la Deuxième Guerre, mais pas seulement. Et donc voilà, je ne crois pas trop au hasard, je pense plutôt aux affinités, aux rencontres. Et c'est aussi, quand on est musicien ou artiste en général, des occasions qu'on saisit, quoi. D'aller voir quelqu'un à la fin d'un concert, lui dire carrément qu'on l'aime parce qu'on adore ce qu'il fait, ça peut déclencher des choses. Et je crois qu'il ne faut pas être
timide
par rapport à ça.
Vous avez mentionné que vous avez d'abord créé Amaryllis, puis Pulcinella. C'était des envies de pouvoir donner aussi de la musique, l'apporter à un certain public ?
À tous les publics. Alors, c'est peut-être pas Amaryllis, c'était moins le cas, parce qu'on passait des concours internationaux, puis on sortait du conservatoire. Mais dans tout ce que je fais, et depuis la création de Pulcinella, qui a 15 ans, il y a cette idée que la musique que j'adore, je comprends toujours pas chaque jour comment quelqu'un peut s'en passer, en fait. Et je trouve que c'est une tragédie que des musiciens...
Un instant.